uma roseira, roseira porque eu me cheiro, rosa da minha roseira.
Diz o mestre Miranda que em catalão será sempre lembrado, Vasco Rafael, roseira, botão de gente. E obviamente que nesta sexta-feira, dia 26 de abril, não podíamos deixar de ouvir a nossa grande rainha, diva do fado, que tem uma ligação também muito especial com a história do 25 de abril, mas que não dá para desenvolver esta noite, obviamente que o tempo é muito limitado, mas vamos ouvir a nossa grande Amália Rodrigues.
Amália Rodrigues, que uma grande, um nome que ficará eternamente na nossa história e nos anéis de toda a história, quando se falar de fado, terá que se falar obrigatoriamente da Suera e da Amália Rodrigues. Esta história é mais recente, já que a Amália foi conhecida, nós conhecemos, eu conhecia pessoalmente, e enfim, entre outras histórias. E a Severa eu não conheci porque não vivia, eu não vivi nesse tempo. Temos pena, não é? A Amália diz-nos: só à noitinha, quando me chega a saudade, choro sozinha para chorar mais à vontade. Claro que, ao fim de nós termos ouvido estes poemas todos, e estão a aproximar-se as 23 horas, o que é que nós podemos dizer? Amigo ouvinte, só à noitinha é que isto acontece. Amália Rodrigues.
Amália Rodrigues, só à noitinha. E queridos ouvintes, não vale a pena chorar, que o Sofado estará de regresso na próxima semana, no dia 3 de maio, com um Sofado muito especial, em direto, da Mirina Torrini, não é assim, Mr. Miranda?
Pois é, querida Odete, e meus queridos amigos, e Paulo Salgado. É verdade, as 23 horas estão aí, sempre a bater, parece um bate-pedro. Chegaram as 23 horas. E nós, com tanta pena, nós agora que estávamos a gostar disto, quando ouvimos a Amália Rodrigues dizer só à noitinha, pois é, mas tudo começa, tudo que tem um princípio tem um fim. E nós temos pena, mas é assim. Por acaso, rima, mas é verdade. Resta-me agradecer aos melhores ouvintes do mundo, desejar-lhes que tenham uma continuação irónica, excepcional, boa, na continuação do 25 de Abril, que normalmente vai durar até o dia 30 de Abril, normalmente. Por isso, meu amigo, aonde estiver, seja feliz pelo menos, e lembre-se que eu, Manuel Miranda, há 50 anos, vim para a rua. É verdade, já era vivo, claro. Resta-me dar um grande abracinho a vocês todos. Tenham um excelente fim de semana. Tal como Odete disse, na próxima sexta-feira, que será o dia 3, nós vamos, o sofá vai haver um sofá de live. Vamos estar em direto de uma vila no departamento 77 chamado Torrigny, no departamento 77. A artista convidada será a Céline Pereira. É uma jovem encantadora que aparece a cantar com os seus brilhos, com os seus encantos. E nesta selva que nós vivemos, há lugar para todos. É verdade. Lugar para todos. A selva é de todos nós. Será acompanhada por mim, a guitarra portuguesa, e pelo Paulo Ramos, à viola. E será uma noite, com certeza, para recordar. Esteja atento, porque vai perceber de mais novidades. Vai ter uma apresentação intensa de a minha querida amiga, colega Odete Fernandes, como sempre acontece nestes eventos. E agora sim, resta-me dizer a última palavrinha para dar à Odete e ao Paulo Salgado, aquele abracinho, dizer que gosto muito de vocês. Foi um prazer partilhar estas 2 horas e até para a semana, se Deus quiser. Abraços, beijinhos para vocês todos.
Muito obrigada, Mestre Manuel Miranda. O encontro fica então marcado na próxima semana na Câmara Municipal de Torrigny, e para os ouvintes então da Rádio Alfa poderão acompanhar esta noite mágica em direto no 98.6 FM. Fechamos esta edição do Sofá do dia 26 de Abril de 2024 com a voz do Américo de Lima. Beijinhos para todos, fiquem bem, sempre na companhia da Rádio que nos liga, a Rádio Alfa, claro.
Será minha. ser a minha amada.
Bonsoir à tous. Retour au calme devant les locaux de Sciences Po Paris dans le 7e arrondissement. Les étudiants qui occupaient l'un des bâtiments de l'établissement en sont sortis à la suite d'un accord. La direction a pris l'engagement d'organiser une réunion publique avec toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Elle a également annoncé suspendre toutes les sanctions disciplinaires prises depuis le 17 avril à l'encontre des étudiants pro-palestiniens. De leur côté, les élèves se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l'institution. Un accord également entre les policiers et le ministère de l'Intérieur. Les agents ont reçu ce vendredi soir la garantie d'obtenir des indemnités pour les JO. Dans le détail, les policiers qui auront limité leur période de congé pendant les JO devraient recevoir une prime de 1 000 euros jusqu'à 1 600 euros pour les agents affectés dans un département qui accueille une épreuve olympique. Les policiers suspendent donc leur mouvement de grève initialement prévu mardi prochain. Cet accident en fin de journée dans le nord de la France, un poids lourd et deux bus transportant des élèves français et allemands sont entrés en collision à Calais au niveau de la rocade portuaire. Le bilan fait état d'au moins un blessé grave et de 25 blessés légers. La mairie de Calais a décidé de prendre en charge tous les enfants qui ne nécessitent pas de soins. Les autres ont été transportés à l'hôpital. À l'étranger, la terre a encore tremblé à Taïwan alors que l'île a enregistré de nombreuses secousses depuis le début de la semaine. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'état insulaire. Toutefois, l'alerte au tsunami n'a pas été lancé. Et puis on termine par un mot de basket avec l'AS Monaco qui a disposé de Fenerbahçe 93-88 ce vendredi soir à Gaston Médecin lors du second match de la série qui oppose les deux équipes en quart de finale de l'Euroleague. Les deux formations sont à égalité, un succès partout après la victoire stambouliote mercredi déjà en principauté. L'ASM et Fenerbahçe se retrouveront les 1er et 3 mai prochains à Istanbul pour les matchs 3 et 4. Excellente soirée à notre écoute.
Coração Fadista, a paixão pelo fado em entrevista com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Muito boa noite, queridos ouvintes. Sob o manto estrelado do firmamento desta noite, dia 26 de abril de 2024, eu, Odete Fernandes, tenho a alegria de estar na vossa companhia. E espero que o programa Coração Fadista seja, de uma certa forma, como uma suave brisa que acaricia a vossa alma. E é com muita amizade que vou saudar a presença iluminada de Paulo Salgado, que aparece tal um farol de luz na nossa jornada radiofónica. Boa noite, Paulo, nosso companheiro de tantas histórias e sonhos do Coração Fadista. Estás bem?
Sempre bem quando estou aqui. Uma boa noite para ti, Odete, para o teu convidado e para os nossos amigos ouvintes.
Querido Paulo, ontem, como sabes, celebramos os 50 anos do 25 de Abril, uma data que ecoa além do tempo como se fosse um hino da liberdade entoado pelos corações dos que sonham. E aqui, neste espaço de Coração Fadista, erguemos nossas vozes em humilde reverência e sugiro, neste instante de comunhão entre passado e presente, que as notas da voz sublime do Marco Rodrigues consigam tocar os vossos corações como se fosse uma prece. O grande Marco Rodrigues, que vamos ouvir com um lindo poema que tem por título Alegria de Abril, que a sua voz seja o eco dos sonhos da esperança que jamais desvanecem.
Alegria com que andamos por cá, na manhã em que o futuro era já, na certeza do incerto. Com o céu azul tão perto, onde o escuro não vai. E abrimos a janela, pelas ruas apagamos a vela, de nos rirmos às escondidas, enganando nossas feridas, ficaste logo mais bela. E corremos pela noite ao luar, para darmos nossos corpos ao mar. Nunca o mar foi tão feliz por beijar este país, um beijo que há de voltar. Uma cela, com o abraço de quem morava nela, por dar voz ao nosso canto, que já não se ouvia há tanto, ficaste logo mais bela.
Sexta-feira, dia 26 de abril, o vosso coração fadista está no ar e esta noite mais um coração fadista muito especial e, desta vez, o nosso coração fadista será essencialmente em língua francesa. Pois é, alguma curiosidade, pela primeira vez vamos falar mais em francês do que em português. Bem, eu sei que o nosso convidado percebe perfeitamente a língua portuguesa, mas eu sei que o coração dele talvez fale com muita mais facilidade em francês. Por isso, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le privilège d'accueillir ce soir, effectivement, une personne qui est de nationalité française et qui a grandement contribué au rayonnement du fado à Paris, surpassant même, et ça je pèse bien mes mots, bien des Portugais dans sa connaissance de cet art. Un homme aux multiples talents et je suis honorée, ravie de le recevoir ce soir, en cette soirée particulièrement spéciale puisque nous sommes au lendemain du 50e anniversaire de la Révolution des œillets et ce monsieur a tant de choses à nous apprendre. Monsieur Jean-Luc Gonod, bonsoir.
Bonsoir Odette. C'est beaucoup trop de compliments. Restons simples, restons simples.
Restons simples, effectivement. Je sais que tu es un homme simple. Nous nous sommes rencontrés il y a peut-être 15 ans maintenant, effectivement.
Tu oui, nous étions jeunes.
Oui, un des premiers contacts dans ce monde du fado. Et j'ai tout de suite été émerveillée par ta connaissance, ton savoir, en fait, sur le fado. Je me suis dit, comment ce monsieur qui est de nationalité française sait autant de choses sur le fado? Eh bien justement, j'aimerais ce soir, si tu es d'accord bien évidemment, mais je pense que tu es d'accord puisque tu as accepté notre invitation, que tu dévoiles un petit peu ce qui t'a amené jusqu'au fado et que tu nous parles un petit peu plus de toi parce que on a l'habitude d'entendre Jean-Luc Gonod parler des autres. Tu as plutôt l'habitude d'être à ma place, à mener des interviews, conduire également des interviews, présenter des événements qui sont liés au fado et bien d'autres activités que tu mènes à bras-le-corps. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse plus à toi. Qui est Jean-Luc Gonod? Et si ça ne te dérange pas, parle-nous très rapidement d'où tu viens, de quelle ville, tu es français. Comment, résume-nous en quelques phrases très, très succinctes ton enfance, Jean-Luc, c'est possible?
Oh, c'est possible, mais mon enfance n'a pas un grand intérêt, je parle avec de la musique. Donc moi je suis français, effectivement, je suis né à Paris, de parents nés à Paris, et de grands-parents nés un petit peu partout ailleurs. Quoi.
Mais un vrai Parisien de souche finalement, puisque tu es né à Paris, et voilà, tu as connu l'évolution de Paris.
Oui, bien sûr. J'ai rencontré le fado, j'avais 22 ans.
Quel quartier, c'est pas indiscret?
À Paris?
Oui.
Ah, à Paris, j'ai déménagé tellement de fois.
D'accord. Mais Paris-Centre plutôt ou...
Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle le centre. Je suis né dans une maternité du 18e et mes parents habitaient le 16e. Ensuite, j'ai habité le, le 14e, j'ai habité le 20e, j'ai habité le 1er, j'ai habité le 8e et j'habite actuellement à Aubervilliers.
Donc tu connais Paris de long en large et plus ses alentours, puisque même la banlieue aujourd'hui. Très bien, donc une enfance à Paris. Voilà, une enfance à Paris, bien évidemment baignée dans cette culture en fait française. Et comment justement le fado est arrivé jusque toi? Alors j'ai cru comprendre que tu as été faire un petit séjour à Lisbonne pour un stage, c'est ça? Ouais, il y a quelques années maintenant.
J'étais étudiant. Ben oui, il y a un peu plus de 50 ans quand même, en 67.
Incroyable.
Ça fait longtemps. Alors, c'est pour ça que savoir un certain nombre de choses de fado, c'est pas un exploit, parce que au bout de 50 ans, forcément, on en apprend.
Mais tu aurais pu t'intéresser à autre chose, et ce n'est pas le cas. Enfin, tu t'es intéressé à plein d'autres choses, mais tu as bien approfondi, effectivement.
Restons dans la musique, moi. Quand j'étais ado, je faisais du jazz. Ah, je faisais de la clarinette, du saxo.
Donc tu es musicien aussi alors?
Pas musicien professionnel, c'était une bande de copains au lycée, enfin bon, on faisait très peu de spectacles, on a dû jouer en public 3-4 fois en 3-4 ans, quoi. C'était pour le plaisir qu'on faisait ça. Et quand je suis arrivé à Lisbonne, donc on a été accueillis, enfin je dis bon parce que tous les étudiants étrangers qui avaient des stages, était attiré par une association étudiante portugaise. Ils ont visité le musée, ils nous ont emmenés à la Tolgrade. On est allé à Coimbra, on est allé à Figueira da Foz, des trucs comme ça, et puis ils nous ont emmenés au fado.
Alors et tu là, confirmes, excuse-moi Jean-Luc, parce que tu confirmes que lorsque tu es arrivé à Lisbonne, tu ne parlais absolument pas le portugais, bien évidemment.
Non,
tu as découvert
jamais.
En fait. Tu as découvert Lisbonne et tu as découvert finalement la langue portugaise aussi pendant ton séjour, on est d'accord?
Oui, j'étais en première langue espagnole au lycée, donc je pense que je parlais assez bien espagnol, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Si je vais à Madrid au bout de la troisième phase, ça va être du portugnol. Et donc, mais par contre, je pouvais lire à cette époque-là assez facilement les journaux portugais. Mais par contre, je ne comprenais rien du tout de ce que j'entends, mais c'est sûr.
Est-ce que tu te souviens de la première maison de fado dans laquelle tu es rentré à Lisbonne? Tu te souviens du nom? Est-ce
tout
que c'était Alors dis-moi.
C'était Rua das Trinas à Madragoa.
À Madragoa.
Ça s'appelait
bien.
Le Solar de Madragoa, qui a fermé quelques années plus tard. C'est les étudiants qui nous avaient emmenés là, en partie pour une raison économique, parce que c'était la maison de fado la moins chère de Lisbonne, en fait, ce qui contenait bien le budget des étudiants. Et je me souviens très bien des artistes que j'ai entendus, et il y en a deux qui m'ont marqué beaucoup, César Mocado, chanteur bariste, et une chanteuse qui était toute jeune et qui vit toujours, qui a eu 50 ans plus tard une maison de fado, qui est Juliette Estrem. Et elle qui joue un rôle associatif très important dans l'histoire du fado.
Très bien. Et qu'est-ce que tu as ressenti alors en tant que jeune Français qui découvre pour la première fois finalement le fado dans ma casa de fado en Lisboa? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as tout de suite ressenti un coup de cœur pour le fado? Parce qu'on peut dire que le fado est une des grandes passions de ta vie, hein, un grand amour d'ailleurs.
Mais c'est la musique.
C'est la musique qui t'a embarqué tout de suite.
Il y avait des belles voix, mais bon, César Mogadou, il avait un rôle un petit peu de bandit sympathique. Et Juliette avait une très jolie voix. Mais les deux guitaristes, il y en avait un qui chantait bien le fado aussi, s'appelait Miguel Silva. Mais c'est surtout la musique. Et évidemment, l'influence de la musique sur les interprètes, ça j'ai compris ça plus tard évidemment, c'est que les guitaristes, ils ne savent pas forcément les paroles que le chanteur va chanter. On leur dit fado corrido, mais ils ne savent pas forcément quel poème, et que ça oblige à des adaptations et à des improvisations aussi. Et le chanteur, en fonction de la guitare, il va aussi improviser. Ils ne chantent pas souvent exactement la même façon, le même fado. C'est ça qui est intéressant.
Et tout ce mélange va s'harmoniser et va créer la magie du fado.
Voilà.
Cher Jean-Luc, je t'ai suggéré de choisir quelques fados qui étaient importants pour toi, comme j'ai l'habitude de le faire avec quelques invités, bien évidemment. Et comme premier fado que nous allons écouter de ta sélection, tu as choisi Joachim Silvering, Minetti Poi. Pourquoi?
Pour deux raisons. Quand je suis revenu du Portugal, en 67, on a cherché avec ma compagne s'il y avait des restaurants qui faisaient du fado à Paris. Et on en a trouvé deux, et le premier c'était le Ribatejo. Et au Ribatejo, il y avait, c'était le fado chaque fin de semaine, et le fadiste qui chantait à l'époque, c'était Joaquin Silverin. Joaquin Silverin, c'est toute une histoire, alors on n'aura pas le temps, parce qu'on va prendre 10 minutes, l'histoire de Silverin et tant portugaise. Mais donc, il était migrant, il était parti pour ne plus chanter le fado, c'est une promesse qu'il avait fait à son père, qu'après sa mort, la mort du père, je veux dire, il ne chanterait plus le fado. Donc, il est arrivé à Paris, et puis ben, il a fini par aller chanter le fado chaque samedi ou dimanche au Ribatejo. Et c'était un grand monsieur du fado. On l'appelait là-bas le Rochinol de Madragoa. Il a enregistré plusieurs disques et il m'a beaucoup appris. Il m'a donné son répertoire et on a passé des soirées à parler de fado. On allait manger chez lui ou chez moi. Il m'a invité à sa maison pendant les vacances à Costa de Lavos au Portugal. Et pour moi, c'est un grand fadiste, évidemment complètement oublié, et qui, à l'époque, à Paris, bon, était Faïd ou Fan, c'est stable. Il y avait des bons fadistes, hein, Joachim Boutel, Manon Boavide, mais Silverin, c'était un type déjà installé à Lisbonne, au milieu du fado.
Eh bien, écoutons, si tu veux bien, Joachim Silverin et cantar Minetti Poi.
Acordar agora o nosso feliz passado. Tu vais conduzir mais hortas e contigo horas mortas. Quero ouvir cantar o fado. Tu vais conduzir mais hortas e contigo horas mortas. Quero ouvir cantar o fado. Até alta madrugada, pelas escuras vielas, aonde em cada cantinho existe sempre o cheirinho das boas iscas com ela. Aonde em cada cantinho existe sempre o cheirinho das boas iscas com ela. Leva-me ao retiro antigo para encontrar o abrigo de uma noite bem passada. E sempre que for cear, que não me possa faltar a bela sardinha assada. Sempre que for cear, que não me possa faltar a bela sardinha assada. Porque não pode voltar, eu vivo sempre a sonhar com essa velha amboia. Chorai, gente de outra idade, que morreu a mocidade da minha antiga Tipoi. Chorai, gente de outra idade, que morreu a mocidade da minha ti poi.
A voz de Joaquim Silveirinha, da Rádio Alfim, no Coração Fadista, com o fado Minha Tipoia, uma das seleções musicais do nosso convidado desta noite, Jean-Luc Gonod. Jean-Luc Gonod, com quem vamos ter essencialmente uma conversa em francês, porque é a linguagem com a qual ele se sente muito mais à vontade, mas podemos dizer que a linguagem onde Jean-Luc se sente à vontade é com a falar de fado. Et oui, c'est en parlant de fado, justement, que tu te sens à l'aise, cher Jean-Luc. On vient d'écouter Joaquim Silveirinha, qui est, je viens de comprendre, d'une certaine manière, un peu ton mentor, en fait, du fado. Si tu veux dire ce terme. Tu disais justement qu'il t'a beaucoup appris, il t'a transmis son répertoire. Alors, quand tu dis il t'a beaucoup appris, est-ce que tu peux dire qu'il t'a beaucoup appris sur la culture du fado ou également sur le chant? Parce qu'on doit dévoiler effectivement aussi à nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que le nom de Jean-Luc Gonod est très très connu par tous les amants du fado, pour ceux qui se déplacent dans les soirées de fado à Paris et pas que. Mais peut-être que certains de nos auditeurs ne te connaissent pas encore et tu chantes également le fado. Et très bien, à ta manière, mais tu chantes le fado, et pour toi, et pour moi, tu es fadiste, sincèrement. Alors, est-ce qu'il t'a appris aussi, est-ce qu'il t'a donné cette envie aussi de chanter?
Non, le chant, c'est encore une autre anecdote, ça nous ramène au soir de Madrigal, hein. Mais non, il ne m'a pas appris à chanter, d'ailleurs, parce que je n'ai jamais de picou, et par contre, il m'a incité sur des choses importantes, que quand on découvre le fado, on ne comprend pas toujours tout de suite.
Alors, quelle est
l'importance du DVD, par exemple.
D'accord.
Et ensuite, quand j'ai écouté Marcinelle, qui était pour moi le maître absolu du DVD, j'ai compris toute l'importance de ça. Comment placer les mots, comment donner l'importance aux mots-clés dans une chanson, c'est ce qui différencie le fado de la variété, par exemple. Où on débite la chanson dans le fado, donc quand on essaye de pas trop mal chanter le fado, on fait attention à ça. Le compas, j'avais pas besoin de Silveirinha parce que le jazz, il y a du compas aussi extrêmement important. Donc celui du fado par rapport au jazz, il est plus simple. Mais on l'a pas. Ça comprend non plus. C'est pour ça que beaucoup de musiciens qui ont pris des cours dans les conservatoires, qui ont travaillé dans la musique classique, ont du mal à jouer du jazz ou le fado, parce que il y a ces syncopes, ce compas très particulier qui vient d'Afrique en réalité. Non, c'est, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est le cas.
Oui, vous parlez de l'origine. Ça, on pourrait en parler longtemps, hein, cher Jean-Luc, et tu sais très bien sur l'origine, effectivement, du fado, toute cette question de métissage. Mais bon, alors, malheureusement, on n'a qu'une heure ici de Colson Fadis.
Bien sûr.
À revenir, pourquoi pas, pour qu'on puisse avoir un petit débat sur cette thématique qui est fort intéressante et qui mérite bien plus qu'une émission de radio. Mais continue à parler, s'il te plaît, de ton parcours, parce qu'effectivement, alors, on peut résumer très rapidement pour nos auditeurs, si jamais ils nous rejoignent maintenant. Donc, un jeune Français qui est né à Paris, qui part faire un stage à Lisbonne, qui découvre le fado d'une certaine manière un peu par hasard, qui est un peu traîné par un groupe d'étudiants, qui revient après, suite à son séjour en fait à Paris, qui commence à s'intéresser au monde du fado. Il rencontre Joaquim Silveirinha, il fréquente un ou deux restaurants où il y a du fado. Donc ça, c'est une chose, aimer le fado. Mais comment est-ce qu'on en vient à faire, de cette manière, on l'aime de vide presque? Parce que dans ton cas, le fado est un peu en fait le fil conducteur de tout ton parcours. Parce que voilà, tu as un petit peu plus que 20 ans et le fado fait partie de ta vie quasiment depuis ta jeunesse. Comment est-ce que tu développes un peu plus? Alors, est-ce que plus on s'intéresse au fado et plus on plonge dedans et plus on aime, c'est ça? C'est un peu...
Voilà, et puis bon, il y a eu une sorte de... d'incident, enfin, une plaisanterie. Pour cela, de Madragoa, bon, on était deux ou trois étudiants étrangers, et puis deux, trois lusophones, enfin, étudiants portugais. Je dis lusophones parce que dans l'association, les dirigeants étaient le président était angolais, il y avait un vice-président de Mozambique, et un autre qui était des militaires en fait qui qu'ils pouvaient poursuivre leurs études parce qu'ils s'étaient engagés dans l'armée portugaise. Ils étaient officiers, en fait.
C'est merveilleux, quelle richesse culturelle. Voilà, ce petit, mélange culturel. Magnifique. Voilà.
Et donc, on allait au salon de Madrago presque tous les soirs. Et puis un soir, il y avait un étudiant finlandais, le sosie de Oliver Hardy, hein, de Laurel et Hardy, mais en blond, quoi, qui un jour, il buvait beaucoup, il a dit à César Morgado, qui était un peu le patron artistique du coin, qui pourrait chanter un fado. Bon, on a rigolé, et puis il a fixé une date. Et puis une semaine avant, il me dit, écoute, est-ce que tu veux bien chanter avec moi? Parce que bon, pour moi, ça va être difficile. Je dis oui, d'accord. Alors, les étudiants lusophones nous ont donné deux fados. Et puis, la veille de l'événement, il a dit non, finalement, je chante tout seul parce que voilà. Ça a commencé.
Comme un défi, finalement, en fait.
Un défi.
Étudiant. Et quels étaient les fados qui avaient été suggérés, du coup, par.
Alors, il y en a un dont j'ai honte et l'autre que je respecte beaucoup. C'était Povo que lavra sorriso, qui est un très beau fado. Mm-hmm. Et l'autre, c'est Casa Portuguesa, qui, depuis ce jour-là, ne fait plus partie de mon répertoire, comme disait Misia.
Oh, on ne va pas commenter cette partie-là, mais si tu veux, tu peux.
Non, bon, c'est pour la peine.
Pourquoi pas justement écouter maintenant Orfeu de Mocenairo? Parce que c'est aussi un des... Non, pas encore?
Non, si.
Ah, ben voilà.
Mais je ne voudrais pas qu'on rate Kinitagom, n'est-ce
pas? Absolument pas. Alors, parce qu'effectivement, tu as programmé, on avait bon, juste pour que nos auditeurs comprennent, effectivement, Jean-Luc m'avait envoyé une sélection de fado à respecter par ordre chronologique. Et effectivement, il y avait avant Orfeu de Mocenairo, Kinitagom. Mais alors, comme tu parles d'Orfeu de Mocenairo, pourquoi pas? Écoutez, est-ce que ça te va?
D'abord,
Orfeu de Mocenairo, Eviel, puisque justement, tu as eu la chance, finalement, de connaître, de fréquenter Orfeu de Mocenairo, ce grand.
De l'entendre.
De le voir en vrai, oh, de l'entendre chanter.
Il m'a fait un compliment une fois.
Ah, quel est ce compliment alors? On peut savoir?
C'est passé à Adega Machado, c'était à la fin des années 60, 69, 70, un truc comme ça. Mm-hmm. J'étais devenu copain avec un des fils du fondateur de Machado, qui était un peu le directeur de ça, alors il me faisait chanter. Il y avait une estrade, alors il montait sur l'estrade. Et puis donc, je monte sur l'estrade et je dis au public, « Eu vou cantar un fado de Alfredo de Mocenairo à Goulaila. » Et qui rentre dans la salle? Alfredo de Mocenairo.
Incroyable, magique. En même temps, ça met la pression. Hein.
Bah, c'est la seule fois où j'ai eu le trac.
Oui, j'imagine.
Autant qu'il n'était pas réputé pour être spécialement tendre.
Oui, il n'avait pas effectivement un visage.
Donc, il vient avec deux, trois amis. Et puis, en plus, il s'assoit à une table où j'étais avec ma copine de l'époque, et qui était restée assise évidemment là. Il s'assoit juste derrière, avec ses deux, trois copains. Bon, je chante Oulaylan, et puis, bon, ça se passe bien. Et puis je vais m'asseoir, puis j'entends Marcinelle qui disait à ses amis, « Et est-ce francésine ou français ?» Ça peut aller.
Très bien.
J'ai pris ça comme j'étais très soulagé.
Arvorei um ar xingão luce rouge sans vie printemps, sans vie disgusto et descrença. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. E ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida. Na pena que me desgarra, só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida.
Alors, je Marciné, pour moi, c'était le boss du fado. Pour moi, c'est Marciné, alors, c'est pas le même rôle, mais un rôle au moins aussi important qu'Amanda Rodriguez dans le fado du siècle dernier.
Une des plus grandes références, effectivement, de notre histoire du fado avec Amalia Rodriguez. Et lors de ta sélection musicale, tu as également souhaité qu'on écoute Quinita Gomes. Alors là, parle-moi de cette sélection musicale, s'il te plaît. Pourquoi ? Pourquoi ce fado et cette personne et le fado que tu as sélectionné, Almazain Matrimonge, est si important pour toi ? Parce que je sais qu'il est important.
Ben, le fado en lui-même, pas tellement. C'est un fado d'allégresse. C'est gentil, quoi.
Mais, oui, c'est rigolo, d'ailleurs. C'est sympa. C'est une petite pépite, effectivement.
C'est quelque chose qui a été chanté par pas mal de chanteuses. Chez nous, il y a Concession de Guadeloupe qui le chante de temps en temps, mais pas avec la même musique. Mm-hmm. Et donc, Quinita est la seule, quand j'ai regardé sur YouTube les autres interprètes, ils ont, je ne sais pas quoi, le Pedro Rodriguez ou un truc comme ça. Et Quinita Gomes, ça nous ramène au titre de Joaquín Silverina, Miña Tipoya. Elle chantait dans un restaurant qui a disparu peu de temps après l'Incinquerie, qui s'appelait Tipoy, qui était une maison historique de Lisbonne aussi, où il y avait quelques légendes du fado. Il y avait à la guitare Casimiro Ramos, ceux qui connaissent le cinéma portugais des années 40. Il y a toujours un fado dans les films portugais, et en général, le guitariste, c'était Casimiro Ramos. Un grand compositeur aussi. Il y avait la patronne Adelina Ramos, sans lien de parenté, qui était aussi une des matrones du fado de l'époque. Il y avait Quinita Gomes. Et on est devenus amis, ma compagne et moi, on est devenus amis avec Quinita, qui était une personne d'une générosité fantastique, qui avait pour moi une qualité vocale avec une voix très acide comme ça, qui m'a beaucoup touché dès le départ. Et donc, c'est un grand souvenir de Quinita, une générosité qu'on imagine aujourd'hui, une belle personne comme vous. Et pour les amateurs d'histoire, elle a été pendant longtemps la compagne d'un fadiste lui aussi qui est dans la légende, qui s'appelait Frutuoso França, qui écrivait des fados moraux, ce qui a valu quelques problèmes avec la censure.
J'imagine. Écoutons Quinita Gomes, Armazém de Matrimônios.
Pedem-se amostras para ver quando se compra um vestido. O mesmo devia ser para se arranjar um marido. O mesmo devia ser para se arranjar um marido. Calculem que pesadelo entrarmos num armazém e escolhermos um modelo do homem que nos convém. escolhermos o modelo do homem que nos convém. A empregada exibia as últimas novidades. Depois a gente escolhia conforme as necessidades. Depois a gente escolhia conforme as necessidades. Eram altos e pequenos, gordos e magros aos olhos, uns loiros, outros morenos, olhando e piscando os olhos. Uns loiros, outros morenos, olhando e piscando os olhos. Nas grandes liquidações, na abundância de sortido, por 10 ou 15 tostões tirava-se um bom marido. Por 10 ou 15 tostões tirava-se um bom marido. Comprar homens a retalho era o negócio dos raros, mas eles dão tal trabalho que até de graça são dados. Mas eles dão
A Rádio Alça está na vossa companhia sexta-feira à noite e nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, temos a honra e o prazer de receber aqui no Coração Fadista um senhor francês que eu conheço muito da história do fado. Para mim, ele é fadista, o nosso fadista francês de Paris, Jean-Luc Gounod, ou até podia dizer Monsieur l'Académicien. C'est pas Jean-Luc, dévoile-nous cette belle nouvelle d'ailleurs que j'ai apprise juste avant notre entretien de ce soir.
Bah, ça s'est fait tout simplement. Je pense
dit-il tout simplement.
Oui, tu connais Nounours Stevens.
Bien sûr.
Qui a passé un septennat parmi nous. Il est à l'Académie, je crois que c'est le plus jeune de l'Académie. Et puis il m'en a parlé, il m'a fait rencontrer Daniel Bourdeil hein, et puis un oncle de Carmine, le nom m'échappe, je ne connais pas lui, et qui a un musée personnel du Fado Lisbonne, qui est issu d'une grande érudition. Et donc ils m'ont parlé de l'Académie, je suis allé une soirée qu'ils organisaient. Et puis ils m'ont dit, ben, si tu veux adhérer, il faut deux parrains, on veut bien tes parrains. Ils m'ont parrainé, et donc depuis le premier journée, je suis membre de l'Académie, où je n'ai pas encore siégé d'ailleurs, mais ça viendra peut-être.
Et tu as rencontré également au long de ton parcours de nombreux jeunes fadistes, qui sont devenus des fadistes confirmés, ouais. Comme par exemple Carlo Pirsch, que tu as sélectionné également ce soir.
Voilà.
Tu l'as sélectionné pour une raison particulière.
Ah oui. J'ai découvert Carla Pires, elle est venue il y a je crois, une dizaine d'années faire un concert à Fontenay-aux-Roses.
L'avais interviewée aussi à cette époque-là, aussi au même moment.
Exactement. Et donc, j'étais j'avais interviewé avant. Elle était à Radio France, à l'interview. Et puis donc, j'avais demandé à interviewer pour le journal. J'avais dit d'accord, donc je l'ai rencontré avant le concert. Bon, c'était une conversation agréable, on parlait de son évolution en fado, etc. Et le lendemain, il y avait le concert. Et c'était un jour de fin de printemps, il faisait un temps magnifique. On était dans un jardin avec des roses et tout ça. Et d'ailleurs, quand j'ai fait l'article, j'ai dit c'est un printemps ambulant.
Elle-même était un printemps, finalement.
Voilà, elle-même était un printemps ambulant. C'est une dame qui est d'une délicatesse, qui a une façon de... j'ai été complètement séduit. Et la deuxième fois, parce que j'ai dû l'avoir cinq ou six fois, et maintenant que je retourne à Lisbonne, elle chante dans l'hôtel dont elle est relations publiques, et je vais l'écouter... Je vais l'écouter à chaque fois que j'y vais. Et la deuxième fois, qui était magique, c'était un concert de Fado au Cirque du Vert, où il y avait une partie du gratin de Lisbonne qui venait, un peu toutes les générations. Il y avait les anciens, alors c'était João Braga et Maria da Fé, c'était
les Pilares do Fado, oui, oui.
Voilà. Il y avait une autre génération, c'était Camané et Catia Guerreiro. Et puis il y avait les jeunes, c'était Zambouge et Carla Pires. Ils ont fait un duo qui était une merveille. Une merveille de poésie, on se sentait dans le bonheur. Et c'est une fille qui sait faire ça. En plus, extrêmement agréable, très, très
jolie. Elle est délicieuse, effectivement. C'est une belle fadiste, effectivement, en tous les sens du terme. Écoutons-la alors chanter Carla Pires, Os Argonautas. Et tu as choisi ce poème, pourquoi? Est-ce qu'il y a un choix également de poème, une raison pour laquelle tu as choisi ce poème en particulier?
Oui. C'est un truc que j'aime bien. Et puis, ça reste, j'ai choisi parce que ça reste quand même plus dans le fado traditionnel que ces derniers disques qui sont excellents aussi, mais qui, je pense qu'ils sont parfaits dans un concert, mais pour donner un extrait de ce qu'elle est, ce ne sera pas évident.
Écoutons, Carla Pires chanter.
Coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto, não. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso. Viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte e madrugada, o riso. O arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso. Viver.
A voz encantadora da linda Carla Pires com o poema Os Argonautas, uma seleção musical do nosso convidado desta noite, Jean-Luc Gonod. Jean-Luc, tu as avoué que tu as été complètement happé et séduit par le talent de Carla Pires, tout comme par le talent d'Antonio Zambujo, celui qu'on surnomme un peu comme le brésilien finalement du fado. Certains disent qu'il n'est pas vraiment fadiste. Enfin, j'imagine que tu n'as pas du tout cette opinion, et moi non plus d'ailleurs. Mais parle-nous effectivement du fait que tu aies choisi justement Antonio Zambouge comme sélection musicale ce soir pour le Soundlift.
Oui. La première fois que j'ai entendu Zambouge, il était venu, il était tout jeune, il était venu pour un concert à l'Institut du Monde Arabe en première partie de Maria Dafé. À l'époque, il chantait à Saint-Louis, donc à la maison de Maria Dafé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec? Ça m'a pas plu du tout. Je trouvais que c'était un chanteur du charme, si ou peu, etc. Et puis, petit à petit, il s'est fait un répertoire, déjà, et un personnage. Et puis, il s'est affirmé, c'est-à-dire qu'il a choisi des choses qui définissent quelque chose. Et c'est un des maîtres de l'ironie. Et dans l'ironie dans le fado, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
Et ça m'a séduit des trucs comme un petit peu coquin parfois, comme Fagrant ou Tiro per la culata, des trucs comme ça. Ces orchestrations qui mélangent le fado mais qui rajoutent de la trompette, de la clarinette de basse, des trucs comme ça. C'est malin, c'est culotté, et je pense que ça dénature pas le fado. Alors, Zambouge, c'est un petit peu, alors c'est pas du tout le même genre, ni le style, ni le caractère. C'est un peu comme Mizia, c'est-à-dire que Mizia, elle dit, je chante le fado, mais je peux chanter autre chose, mais je fais la distinction. Un jour, dans un concert à Paris, elle est arrivée en disant, je vous préviens d'avance, il n'y aura pas de fado ce soir, je vais chanter du cabaret. C'était son disque délicatesse. Hein. Et puis à la fin, parce qu'elle a beaucoup d'humour aussi, elle a dit, la prochaine fois, je vous promets, j'aurai la robe noire, je serai austère et je vous chanterai du fado. Donc, on peut faire des choses. Hein. C'est la dualité des personnages. C'est presque l'équivalent des hétéronymes de Pessoa, si tu veux. C'est
deux personnages différents.
Hein. Et Zambouge, il y a Zambouge, le Brésilien ou Voz Brasileiro, et puis celui qui sait aussi très bien chanter. La dernière fois que j'ai entendu, c'était à Saint-Denis, dans la basilique. Il y avait un orchestre symphonique, ce qui n'était pas la meilleure idée à mon avis, mais vraiment. Et puis, il y avait Anamor et Zambouge, chacun avec leurs musiciens. Ils ont fait un duo sur Flagrant. Et j'ai trouvé ça, moi, ça m'a fait énormément rire. Parce que je suis pas croyant du tout. Et chanter Flagrant, qui est un truc quand même assez coquin, dans une basilique, je m'amusais moi-même en disant, si l'évêque est là, quelle tête il va faire, quoi, en réalité. J'espère qu'il comprend pas le portugais. Mais. Il ose ça, Zambouge. Et j'ai passé une après-midi aussi, je venais l'interviewer, et puis bon, est-ce que je peux rester? Il était avec ses musiciens tout l'après-midi pour préparer le concert du soir. Et, donc, c'est intéressant de voir comment ils réagissent avec lui. C'est très décontracté, c'est très sympa, etc. Voilà.
Est-ce que je pourrais oser dire que de cette manière, Zambouge, tu t'identifies un petit peu aussi à sa manière de chanter? Ce serait un peu comme ton fils spirituel, si tu en avais un? Qui chanterait le fado? Non, c'est trop osé. Non, pas forcément.
Parce que, à la limite, moi, ça m'arrive de chanter des trucs brésiliens que j'essaie de faniser aussi, mais dans le samba et tout ça, un de mes grands artistes, mais là, c'est hors sujet, c'est Martinho da Vila, c'est.